Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
Le 9 août, c'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps.
Le gouvernement a tranché et a fixé la date. L'extension du pass sanitaire sera donc appliquée dès le lundi 9 août, soit quelques jours après sa validation attendue par le Conseil constitutionnel.
Autre annonce du gouvernement aujourd'hui, celle concernant le protocole sanitaire pour la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation a annoncé 4 scénarii gradués en fonction de la virulence de l'épidémie, avec le risque pour les élèves non vaccinés d'être évincés en cas de contamination dans leur classe.
Une nouvelle médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. De l'or en aviron pour les rameurs Mathieu Androdias et Hugo Boucheron.
Première condamnation confirmée en France pour un dirigeant étranger dans l'affaire dite des biens mal acquis. Tout le patrimoine acquis frauduleusement par le vice-président de Guinée équatoriale sera donc vendu aux enchères et l'argent restitué à son pays.
La Bourse de Paris, le CAC 40 termine en forte hausse de 1,18% et repasse la barre des 6600 à 6609 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, une petite journée d'accalmie. Demain, le temps sera généralement lumineux avec un joli dégradé nuageux. Alors plus de nuages près de la Manche et un ciel de plus en plus dégagé en allant vers les régions méridionales et le flanc est.
Point complet à la fin de cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'épidémie continue de progresser. 27 000 contaminations supplémentaires détectées hier en 24 heures. Le gouvernement, lui, continue de mettre en place ses dispositions.
Ce matin se tenait le dernier conseil des ministres avant la pause estivale du gouvernement. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a donné plus de détails sur la mise en place de l'extension du pass sanitaire qui devrait être validé par le Conseil constitutionnel le 5 août.
La loi sera donc promulguée dans la foulée avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août. C'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés. J'avais parlé d'une période de rodage d'une semaine, de la même manière que nous l'avons mise en place pour les acteurs culturels et des loisirs qui ont mis en place le pass sanitaire depuis la semaine dernière. Évidemment, que pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars, les acteurs qui appliqueront le pass sanitaire à compter de cette date, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a également annoncé l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Alors avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, des questions se posent sur les retours de vacances pour les transports de longue durée. On commence à en savoir un peu plus.
Oui, notamment du côté de la SNCF. Et concrètement, comment va-t-on être contrôlé, Emmanuel Dutheil ?
Eh bien, ces contrôles à la SNCF vont être aléatoires. Vous pourrez être contrôlé au départ, pendant votre trajet ou à l'arrivée, voire pas du tout. L'idée, c'est de rendre ces contrôles le plus fluide possible, notamment au moment du week-end du 15 août, qui sera, comme chaque année, l'un des plus chargés de l'année. Car c'est bien ça le risque. Un contrôle systématique à l'embarquement aurait pu être synonyme de grosse pagaille. Si jamais vous deviez être testé positif au Covid, au moment où vous devez prendre le train, sachez que la SNCF vous rembourse sera le voyage. Comme le dit la compagnie, début août, la règle sera donc simple, un billet, un masque et un pass sanitaire. Ces contrôles concernent les trajets en TGV, intercités et train de nuit. Le pass sanitaire est aussi utilisé pour les vols intérieurs. Air France, pour gagner du temps, propose désormais de vérifier les documents avant d'arriver à l'aéroport.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Alors voilà pour les transports. On en sait désormais plus également sur la rentrée scolaire à 5 semaines du retour en classe des élèves. Jean-Michel Blanquer a donné des détails sur son organisation.
Le ministre de l'Éducation a évoqué 4 scénarios correspondant à 4 situations différentes, graduées de 1 à 4 en fonction de la circulation du virus. Angèle Châtelier.
Oui, dans les collèges et les lycées, par exemple, s'il y a un cas de Covid dans une classe, seuls les élèves non vaccinés devront rester chez eux. Et ça ne veut pas dire qu'ils pourront suivre les cours. C'est ce qu'a rappelé Jean-Rémy Girard, président général du syndicat des lycées et collèges, ce midi sur Europe 1.
Il faut bien que les familles se rendent compte que ils vont rester chez eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront des cours à distance. On ne va pas faire un cours en visio ou en plus le soir ou le week-end pour les élèves qui sont chez eux. Donc ils auront sûrement les cours sur l'espace numérique de travail, des choses comme ça, comme quand un élève est malade.
L'objectif, c'est la vaccination maximale des élèves. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, espère 100% des adolescents vaccinés d'ici octobre. En ce qui concerne les écoliers de primaire, leur classe fermera instantanément spontanément pendant 7 jours s'il y a un cas de Covid. L'idée n'est pas, dit le ministre, d'imposer le pass sanitaire dans le système scolaire, ni de rendre la vaccination obligatoire pour les enseignants, qui de toute façon pour 80% d'entre eux sont déjà vaccinés, selon une étude ministérielle. Dans le scénario le plus optimiste, le masque ne serait même plus imposé à l'école primaire. Dans le plus pessimiste, il y aurait un format hybride des cours systématiquement pour les lycéens et pour les élèves de 4e et de 3e. Une limitation des effectifs à 50% aussi et les activités sportives suspendues en intérieur.
Angèle Châtelier.
Suite et fin de la visite d'Emmanuel Macron en Polynésie, le président a abordé un sujet délicat, celui des essais nucléaires effectués par la France dans le Pacifique entre 1966 et 1996.
Et ce discours envers les victimes qui attendaient un geste de Paris, Emmanuel Macron reconnaît que la France a une dette envers la Polynésie, Claudia Bertram.
Pas de demande de pardon, mais Emmanuel Macron promet de la transparence. À la tribune, entouré de fleurs tahitiennes, il dit tout assumé.
Je pense que c'est tout à fait vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici parce que c'était plus loin, parce qu'on se disait c'est perdu au milieu du Pacifique, ça n'aura pas les mêmes conséquences.
Tout assumé, y compris le choix du général de Gaulle de se doter de l'arme nucléaire. Devant plusieurs centaines de Polynésiens, le chef de l'État assure vouloir briser le silence.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Trop longtemps, l'État a préféré garder le silence sur ce passé. Je veux la vérité et la transparence avec vous.
Ouverture des archives et facilitation de l'indemnisation des victimes, confirme Emmanuel Macron. Des mots et des annonces à la hauteur pour ces Polynésiens venus écouter le discours.
Aujourd'hui, on s'engage vers une ouverture, vers une libération, en fin de compte, de l'histoire.
Moi, la seule chose que je voulais, c'est l'engagement du gouvernement français dans la recherche de la vérité. C'est tout.
Mais pas de quoi répondre aux attentes de l'association 193 qui vient en aide aux victimes. Son président dénonce, lui, de la démagogie. Papété, Claudia Bertram, Europe 1.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans un instant. On revient sur la nouvelle médaille d'or de la France à Tokyo. Et puis nous partirons à Boulogne-sur-Mer, destination prisée cette année par les vacanciers. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Avec la suite du journal de Sophie Tussaud à 18h08, avec encore une belle journée pour la France à Tokyo.
Oui, avec une nouvelle médaille pour les Bleus qui en compte 8 au total désormais. Une récompense en aviron grâce à la belle performance des rameurs Mathieu Androdias et Hugo Bouchon. Simon Rubin, qu'une seule médaille aujourd'hui, mais elle est en or.
Eh oui, médaille obtenue en pleine nuit, hein, heure française, avec ce 2 de couple masculin en aviron, le tandem Mathieu Androdias et Hugo Boucheron qui réalisent une performance de très haut niveau pour battre sur le fil notamment les Pays-Bas. Alors finale qui n'a pas été parfaite hein, techniquement, avec beaucoup d'erreurs, notamment sur les 100 derniers mètres. Des erreurs qui auraient pu coûter cher et qui ont valu une belle frayeur aux Français, c'est raconté par Mathieu Androdias.
En général, ce genre de choses, ça te fait passer à la trappe, quoi. C'est erreur qui te coûte la place. Donc on est conscient de ça, je pense, à ce moment-là. Et là, on en voit tout ce qu'on peut, quoi. Moi, je ferme les yeux et puis je pousse tout ce que j'ai encore à pousser. Hugo, bah, il est déjà parti, quoi. Et on passe la ligne, on ne sait pas, quoi. On sait qu'on a donné le max. On ne sait pas ce que ça donne. On regarde le tableau d'affichage et la délivrance, quoi.
La délivrance pour le tandem français, c'est donc la seule médaille du jour. La France qui est ce soir 9e au tableau des médailles, juste derrière l'Allemagne. Alors pas d'autres médailles, c'est pas passé loin pour l'équipe de France de basket en 3 contre 3. Les Françaises sont 4e. Et puis de beaux succès en basket 5 contre 5. 97-77 pour les Bleus qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Et puis handball, victoire 30-29 sur l'Allemagne. En revanche, c'est fini pour l'équipe de France de foot, balayée 4-0 par le Japon.
Simon Rubin qui vous fait vivre les Jeux tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1 dans le Tokyo Club. L'actualité judiciaire à présent avec cette affaire dite des biens mal acquis et cette première condamnation définitive en France d'un dirigeant étranger. La justice française confirme le jugement de la Cour d'appel de Paris concernant le vice-président de Guinée équatoriale. 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende.
Théodorin Obiang est accusé d'avoir détourné des fonds publics de son pays pour se constituer un patrimoine luxueux, notamment en France. La totalité de ses biens lui sont donc définitivement confisqués, Marion Dubreuil.
Exactement, ces biens seront mis en vente par l'État français. Il y a notamment cet hôtel particulier, avenue Foch, 3000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Cinéma, hammam, robinet en or, le tout estimé à 107 millions d'euros. Sarah Brimboeuf, spécialiste des biens mal acquis pour Transparency International France, partie civile dans le dossier de Théodorin Obiang, se félicite de sa condamnation définitive. Point final d'une procédure qui a duré 14 ans.
C'est un message très ferme, très fort, envoyé par la justice française sur ces pratiques, sur le fait que la France ne sera plus bien une terre d'accueil de cet argent sale, de ces fonds publics détournés, puis investis, blanchis en France. On a cette condamnation définitive. On a également maintenant un dispositif spécifique de restitution des biens mal acquis.
Cette procédure de restitution prendra encore plusieurs années. Elle pourra se faire par deux biais, via des appels d'offres à projets ou bien via l'Agence française de développement, avec une préoccupation pour les ONG, s'assurer que cet argent, 150 millions d'euros environ, ce qui correspond au budget annuel de la santé en Guinée équatoriale, soit reversée au profit des Équato-Guinéens.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Nabila, épinglée par la répression des fraudes, l'ancienne star de télé-réalité, va devoir payer 20 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses en 2018. Elle avait fait la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela.
L'enquête sur le braquage d'une bijouterie Chaumet hier à Paris progresse. Deux suspects ont été interpellés ce matin sur une aire d'autoroute en Moselle. Une partie du butin, évaluée à 2 ou 3 millions d'euros, a été retrouvée sur eux. Ils ont été placés en garde à vue.
Oui, hier, en fin d'après-midi, venu à trottinette, un homme a fait irruption dans la joaillerie avec une arme de poing. Il s'est fait remettre des bijoux et des pierres précieuses avant de prendre la fuite comme il était venu en trottinette.
Il était l'un des seconds rôles les plus connus du cinéma français. Jean-François Stévenin est décédé hier à Neuilly, près de Paris, à l'âge de 77 ans.
Réalisateur par vocation, acteur par hasard, Jean-François Stévenin avait travaillé avec les plus grands et avait tourné dans L'argent de poche de François Truffaut ou encore Une chambre en ville de Jacques Demy. Le réalisateur Alexandre Arcadi a fait trois films avec lui, dont Le Grand Pardon 2, et lui rend hommage sur Europe 1.
J'ai vraiment beaucoup de tristesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était un homme si chaleureux, si bon vivant. Avec lui, j'ai fait trois films et souvent dans des situations de rôle un peu bizarres. Une fois, il était conducteur de bolide, une autre fois, conducteur d'hydravion. Et il disait souvent, la prochaine fois, il va me mettre dans un tank. Donc, c'était un humour permanent, chaleureux, très bon acteur. Et je me souviens particulièrement d'une anecdote. Nous tournions Le Grand Pardon 2 à Miami. Et je ne sais pour quelle raison, il était arrivé au dernier moment. Et on tournait de nuit. Et il a pratiquement tourné avec nous alors qu'il n'avait pas dormi depuis presque 48 heures. Il s'assoupissait un petit peu et il reprenait son rôle. Donc c'est triste, quoi. Voilà, c'est triste.
Le réalisateur Alexandre Arcadi.
Alors, on parle un peu de nos vacances pour terminer. La pandémie a décidément rabattu les cartes des destinations pour les vacances d'été. Les Français partent moins à l'étranger et en profitent pour découvrir des lieux qu'ils n'avaient jusqu'à là pas privilégiés, Sophie.
Oui, des Français qui sont nombreux à s'organiser à la dernière minute. 41% d'entre eux, selon une étude Ipsos. Certains choisissent le littoral dans le Pas-de-Calais. Reportage à Boulogne-sur-Mer de Maximilien Carlier.
Dans l'office de tourisme, Linda et Jérôme, deux Français qui vivent en Allemagne, ils regardent les brochures de char à voile, les vacances, ça s'est fait un peu au dernier moment.
On a décidé du jour au lendemain, le plus près pour nous c'est le Nord-Pas-de-Calais et on a trouvé quelque chose de super à Boulogne-sur-Mer et on est très très content d'être ici.
Car c'est calme, des plages plus grandes, on n'est pas les uns sur les autres, c'est ce qui revient dans la bouche des touristes, originaires principalement des Hauts-de-France, de la région parisienne.
La marina Boulogne-sur-Mer.
Des réservations à la dernière minute. Arnaud, responsable de la résidence hôtelière Evancy.
C'est, on est en train de bosser, on a la tête dans le guidon, on est dans le métro, et qu'est-ce qu'on fait dans les deux prochains jours de repos qu'on a ensemble ? Ça pour moi, c'est un coup de tête, c'est vraiment une décision. Ils avaient coché Boulogne, et donc du coup, ils vont sur Boulogne.
Pour passer un court séjour de vacances, en moyenne, 3-4 nuitées. Les meublés, les gîtes sont très demandés. Virginie, employée à l'office de tourisme.
Les gens veulent de plus en plus leur autonomie. Pouvoir, par exemple, soit aller chercher des plats emportés et surtout pouvoir cuisiner dans leur propre hébergement.
Et selon cette hôtesse d'accueil, cette tendance va s'accentuer au mois d'août avec l'instauration du pass sanitaire. Boulogne-sur-Mer, Maximilien Carlier, Europe 1.
Ainsi s'achève le journal de Sophie Tussaud. Sophie, vous revenez bien sûr à 18h30
oui,
pour l'essentiel de l'info. La météo, justement, Marlène Duré, on était à Boulogne-sur-Mer. Oui. Quel temps demain, tiens, à Boulogne-sur-Mer?
Alors déjà, la mer était agitée aujourd'hui, je tiens à le signaler, il y avait pas mal de vent. Et si les nuages étaient nombreux, sachez que demain, les nuages seront encore au rendez-vous à l'approche d'une nouvelle perturbation. Mais d'une manière générale, Thierry, c'est quand même une journée d'accalmie, il faut le dire. Après une matinée bien sympa, donc on va avoir ces nuages qui vont arriver là, de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Ça passe d'ailleurs par les Yvelines et puis le Val d'Oise. On est simplement à la proche d'une perturbation, parce que vendredi, bon. Ça...
avec quelques petits... Mauvais week-end.
Bah, déjà vendredi, on va laisser passer
d'accord.
le... on verra après.
De toute façon, enfin, j'ai bien compris hier, vous avez dit jusqu'au 15 août, c'est foutu. Hein.
Bah, c'est pas du foutu, il y aura des moments sympas, voilà. Mais bon, c'est pas foufou, c'est pas magique. Donc, je le disais, là où ce sera le plus nuageux, de la Bretagne, en allant vers le Nord-Pas-de-Calais, avec quelques petites averses. Ensuite, c'est un dégradé de moins en moins nuageux, à mesure que l'on va vers la façade est et le sud du pays. Donc, on aura même du très beau temps en Alsace, en Franche-Comté, sur l'ensemble des Alpes, en vallée du Rhône, en Occitanie, évidemment toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis une bonne partie de l'Aquitaine. Là, on est tranquille. Du côté des températures... Ah, puis petite averse orageuse, bien sûr, comme toujours, sur le relief du Massif central. Un grand classique maintenant et des Pyrénées. Les températures, donc, oui, c'est vrai qu'il fait un peu frais et puis ça va durer comme ça jusqu'au début du mois d'août. Hein. Ça se confirme, tout du moins, sauf en Méditerranée, où il fait toujours bien chaud. Donc, vous me parliez de Boulogne-sur-Mer. Demain, 18 degrés, ce sera la minimale. Il fera 19 à Guingamp, 21 à Lille et Amiens, 23 à Vittel, 24 à Paris, Nancy et Biarritz. Nous aurons 26 à Angoulême, 27 à Strasbourg, 29 à Lyon, ainsi qu'à Toulouse, 30 degrés à Toulon, 31 à Bastia, 32 à Sainte-Marie-de-la-Mer, 34 à Cavaillon, et ça monte encore jusqu'à 35 degrés dans la Cité des Papes, en Avignon.
Merci Marlène, à tout à l'heure.